Culture, la nuit, une mémoire radiophonique.
Dans une lettre à son amie Souvorine, datée du 21 octobre 1895, Tchekhov déclarait à propos de la mouette « Je ne l'écris pas sans plaisir, bien que j'y transgresse gravement les lois du théâtre ». C'est une comédie, trois rôles de femmes, six rôles d'hommes, quatre actes, un paysage vu sur un lac, beaucoup de conversations littéraires, peu d'action, 100 kilos d'amour. La mouette fut jouée pour la première fois au théâtre Alexandrinsky, à Saint-Pétersbourg, le 17 octobre 1896. L'accueil réservé au spectacle fut si hostile, l'échec si retentissant, que Tchekhov quitta le théâtre avant la fin du spectacle et repartit pour Moscou par le premier train du matin. Tchekhov ne consentit qu'après de longues hésitations à confier la mouette, deux ans plus tard, au jeune théâtre d'art de Moscou. Mise en scène par Stanislavski, elle connut un succès triomphal et n'a pas cessé depuis lors d'être inscrite au répertoire de ce théâtre, dont l'oiseau aux longues ailes déployées est devenu l'emblème. En voici la version du 1er juin 1961 sur France Culture.
La radiodiffusion française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission de Philippe de Chartres. Vous entendrez aujourd'hui, dans un découpage radiophonique, La Mouette, comédie de Tchekhov, texte français de Georges et Ludmila Pitoeff, jouée au Théâtre moderne dans la distribution suivante. Arkadina, actrice, Arlette Méry, Constantine, son fils, communément appelé Kostia, Antoine Bourseiller, Piotr Nikolaïevitch Sorine, frère d'Arkadina, Harry Max, Nina, fille d'un riche propriétaire foncier, Delphine Sérig, Chamraïev, lieutenant retraité, intendant chez Sorine, Pierre Leprou, Paulina, sa femme, Madeleine Chemina, Macha, leur fille, Luce Garciaville, Trigorine, écrivain, Sacha Pitoeff, Dorn, médecin, Yves Brinville, Medvedenko, instituteur, Paul Chevalier. Mise en scène de Sacha Pitoeff, d'après les notes de Georges Pitoeff. La tribune libre de Théâtre et Université réunira autour de Philippe de Chartres, Sacha Pitoeff, Georges Lherminier, critique dramatique, Marcel Giraudet, Jean Lègle, professeur de lettres au lycée Carnot, Yves Baudelot et Guy Rossilandi, élèves de philosophie au lycée Carnot. Veuillez écouter tout d'abord un avant-propos de Marcel Giraudet.
Il n'y a pas dans le théâtre de Tchekhov ce grand rêve mystique et désespéré de liberté, de fraternité humaine et de justice sociale que Dostoïevski et Tolstoï ont légué à la civilisation et à la littérature. Mais, comme répondant au désenchantement de l'ivresse romantique, au désenchantement aussi d'une fin de siècle égarée dans sa recherche de connaissances et de vérité, on retrouve chez Tchekhov un chant mélancolique où l'amertume et la douceur, la misère et l'amour dominent des personnages à la fois très stylisés et très loin de nous. Qu'avons-nous à faire vraiment, à première vue, avec ces êtres sans volonté, vivant lentement au fil de leur lente décadence? Ou bien ils ont admis une fois pour toutes que cette société sans esprit et sans âme leur a offert le meilleur des mondes possibles et ils jouent à vivre sans espoir et sans foi entre la pêche à la ligne, l'alcool et les amours inachevés, ou bien ils cherchent à tuer en eux ce qu'ils ont de meilleur, de plus noble et de plus personnel, sinon à se suicider tout simplement. Ce monde-là, Tchekhov le retourne sur le grill de son théâtre, doucement, à petit feu, sans hâte et sans effet de renouvellement. La part d'autobiographie est certes fort lourde, et sans doute perdons-nous beaucoup en ne commentant pas son œuvre sous cet angle. Mais j'avoue que ces bourgeois, dans l'exercice ou l'oubli de leurs fonctions sociales, artistes, médecins, écrivains, propriétaires terriens, jeunes et vieux, mangeant leurs derniers sous, buvant leur dernière ivresse, jouant à qui perd gagne au bonneteau des régimes décadents, sont un bien triste tableau et trop émouvant. On comprend sans grand effort que tous ces fantômes attachés au souvenir de leur pauvre carcasse aient disparu un jour et que les forçats de Dostoïevski et de Tchekhov lui-même aient plus de poids dans l'histoire des hommes. Cependant, l'art de Tchekhov est bien attachant. Dépeindre le malheur et la déchéance, en faire une fresque dont on ne saurait nier l'exactitude et la vie, mérite réflexion. C'est par des hommes de théâtre que cet écrivain de théâtre est le plus sûrement servi. Les Pitoëf ont tous les titres pour se confier à Tchekhov. Et en reprenant la mouette après les trois sœurs, Sacha Pitoëf rend hommage, avec grandeur, à la fois à son père et au dramaturge le plus près de notre temps que la Russie nous puisse offrir.
L'action se passe dans la propriété du général en retraite, Piotr Nikolaïevitch Sorine. C'est l'été, c'est le moment des vacances. Il y a là, dans cette grande maison de campagne, la sœur de Sorine, Arkadina, la très illustre comédienne, et son amant, le célèbre écrivain Trigorine. Il y a Dorn, le médecin et l'ami de la famille. Constantine, dit Kostia, le fils d'Arkadina, visionnaire, enthousiaste et amer, qui cherche à écrire pour le théâtre des pièces d'un style nouveau. Chamaïev, l'intendant, Pauline, sa femme, Masha, la triste Masha, leur fille, et l'instituteur du village, Medvedenko, qui est amoureux de Masha. Kostia a, selon sa théorie des formes dramatiques nouvelles, écrit un acte. Il a improvisé dans le jardin, entre deux arbres, un théâtre de verdure, avec le lac et la plaine comme décor. Il a confié l'unique rôle de sa pièce à la jeune fille qu'il aime, Nina. C'est le soir. Il y a clair de lune. Il fait tout. Tout est prêt pour le spectacle. Kostia, face au public, frappe avec une branche de saule les trois coups symboliques.
Ô vous, ombres vénérées, ombres anciennes qui volez sur ce lac aux heures de la nuit, endormez-nous et laissez-nous voir en rêve ce qu'il y aura dans 200 000 ans.
Dans 200 000 ans, il n'y aura rien du tout.
Eh bien, qu'on nous montre ce rien.
Qu'on nous le montre, nous dormons.
Le rideau se lève, debout sur un socle. Et lancé vers le ciel comme une longue flamme blanche, le visage baigné de lumière, Nina.
Homme, lion, aigles et perdrix, cerfs aux grandes cornes, oies, araignées, poissons silencieux qui vivaient dans les eaux, étoiles de mer, et ceux que l'œil ne pouvait voir. En un mot, toutes les vies, après avoir parcouru leur triste cycle, se sont éteintes. Voilà des milliers de siècles que la Terre ne porte plus un seul être vivant. Et cette pauvre lune allume en vain sa lanterne. Dans les prés, les hérons ne s'éveillent plus avec leurs cris. On n'entend plus les hannetons dans les bois de tilleul. Il fait froid. Froid. Tout est désert, 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 terreur, terreur, terreur. Les corps des êtres vivants se sont évanouis dans la cendre, et la matière éternelle les a transformés en pierre, eau, nuages. Et leurs âmes se sont confondues en une seule âme, l'âme commune du monde entier. C'est moi. Moi. J'ai l'âme d'Alexandre le Grand, et de César, et de Shakespeare, et de Napoléon, et de la dernière censure. En moi sont confondues les consciences des hommes et les instincts des animaux. Je me souviens de tout, de tout, de tout. Et de nouveau, chaque vie revit en moi.
C'est du moderne.
Maman.
Je suis seule. Une fois tous les 100 ans, j'entrouvre mes lèvres pour parler et ma voix résonne tristement dans le vide et personne ne m'entend. Vous non plus, pâle lumière, vous ne m'entendez pas. À la tombée du jour, les marais stagnants vous donnent la vie et vous errez jusqu'à l'aurore. Mais sans pensée, sans volonté, sans souffle de vie. Craignant que la vie naisse en vous, Satan, père de la matière éternelle, exerce en vous à chaque instant, ainsi que dans les pierres et dans les eaux, l'échange des atomes. Et vous vous transformez sans cesse. Seul dans l'univers, l'esprit demeure constant et inaltérable. Comme un prisonnier jeté dans un puits profond, j'ignore où je suis et ce qui m'attend. Je sais seulement que dans la lutte cruelle et obstinée avec le diable, origine de toute force matérielle, il m'a été donné de vaincre. Après quoi, l'esprit et la matière se confondront dans une harmonie parfaite. Alors viendra le royaume de la volonté universelle. Mais cela ne sera que lorsque petit à petit, dans une longue, longue suite de milliers de siècles, et la lune et le clair Sirius et la terre tomberont en poussière. Jusque-là, horreur, horreur. Je vois s'approcher mon puissant ennemi, le diable. Je vois ses yeux effrayants.
Ça sent le soufre. Ça va être comme ça.
Oui.
Ah, c'est un effet.
Ah bon?
Il s'ennuie sans l'homme.
Vous avez enlevé votre chapeau. Mettez-le, vous allez prendre froid.
C'est devant le diable, père de la matière éternelle, que le docteur a enlevé son chapeau.
La pièce est terminée, rideau.
Mais pourquoi donc te fâches-tu?
Rideau. 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 Je vous demande pardon. J'ai complètement oublié que seuls de rares élus peuvent écrire et jouer des pièces. J'ai violé le privilège! Mais.
Mais qu'est-ce qu'il a?
Irène, ma chérie, on ne doit pas traiter ainsi l'amour propre d'un jeune homme!
Que lui ai-je dit,
mais
voyons!
Mais tu l'as offensé!
Mais lui-même nous a dit que c'était une plaisanterie! Oh. Eh bien, j'ai pris sa pièce pour une plaisanterie!
Mais tout de même!
Et voilà maintenant qu'il faut la considérer comme un chef-d'œuvre! Voyez-vous ça? Ainsi, il a organisé ce spectacle et nous a parfumé le soufre! Non pas pour plaisanter, mais pour faire une démonstration! Il a voulu nous montrer comment il faut écrire les pièces et ce qu'il faut jouer. Mais ça devient ennuyeux à la fin. J'en ai assez de ces sorties perpétuelles. C'est un gamin capricieux et prétentieux.
Il a voulu te faire plaisir.
Oui. Voyons. Mais plutôt que de choisir une pièce ordinaire, il nous a obligés à écouter un délire moderne. S'il s'agit d'une plaisanterie, je suis prête à écouter. Même le délire. Mais... c'est de la prétention de vouloir découvrir des formes nouvelles et de vouloir créer dans l'art une ère nouvelle. À mon avis, ce ne sont pas du tout des formes nouvelles, mais simplement un mauvais caractère.
Chacun écrit comme il veut et comme il peut.
Eh bien, qu'il écrive comme il veut et comme il peut, mais qu'il me laisse tranquille.
Jupiter, tu te fâches.
Mais je ne suis pas Jupiter. Je suis une femme. Je ne me fâche pas du tout. Mais vraiment, ça me vexe de voir un jeune homme passer son temps aussi tristement. Bon, je n'avais pas du tout l'intention de l'offenser.
Nul ne peut prétendre à séparer l'esprit de la matière, car il est possible que l'esprit lui-même soit l'agrégat des atomes de la matière. Mais dites-moi, ne serait-il pas intéressant de décrire dans une pièce et puis représenter au théâtre comment nous existons, nous autres, maîtres d'école? Oui, elle est bien dure, notre existence, bien dure.
C'est juste. Mais ne parlons plus ni pièce ni atome. Oh, il fait si bon ce soir. Vous entendez? En chat. Oh. Oh, que c'est joli.
C'est de l'autre côté du lac.
Ah. Approchez-vous de moi. Il y a 10 ou 15 ans de cela, la musique et le chant résonnaient sur ce lac, sans discontinuer, presque toutes les nuits. Je me rappelle, ce n'était que rire, vacarme, fusillade, et puis des romans. Des romans. Des romans. Le jeune premier et l'idole de toutes ses propriétés était alors, tenez, je vous le présente, le docteur Darmes. Il est encore charmant, mais dans ce temps-là, il était irrésistible. Mais voilà que je commence à avoir des remords. Mon Dieu, pourquoi ai-je fait de la peine à mon pauvre garçon? Je ne suis pas tranquille. Oh. Kostia! Mon fils! Kostia!
Oh, je vais le chercher.
S'il vous plaît, ma chérie.
Ouh! Ouh! Constantin, car vous l'avez vu!
Nous ne continuons pas, je suppose. Maintenant, je peux venir vers vous.
Bravo! 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 Nous vous avons admiré. Avec votre physique et avec une si belle voix, on ne passe pas sa vie à la campagne. C'est un crime! Vous devez avoir du talent. Vous entendez? Vous devez faire du théâtre.
Oh, c'est mon rêve. Mais il ne se réalisera jamais.
Ah, qui sait? Permettez que je vous présente Grégory.
Oh, je suis si heureuse. Je vous lis toujours.
Oh, 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 ne soyez pas intimidée, ma chérie. C'est une célébrité, mais une âme simple. Vous voyez, il est intimidé lui-même.
On peut peut-être maintenant tirer le rideau, non? Ça fait triste.
Yakov!
Ouvre le rideau, mon ami.
La pièce est étrange, n'est-ce pas?
Je n'y ai rien compris. Mais j'ai regardé avec plaisir. Vous avez joué avec tant de sincérité. Et puis le décor était très beau. Il y a probablement beaucoup de poissons dans ce lac.
Oui.
J'aime pêcher à la ligne. Il n'y a pas de plus grand plaisir pour moi que de rester à la nuit tombante au bord de l'eau et de regarder le bouchon.
Mais je crois que pour celui qui a connu la joie de la création, toutes les autres joies n'existent pas.
Oh! Ne parlez pas ainsi, ma chérie. Quand on lui dit de jolis mots, il sent la terre s'ouvrir sous ses pieds et il disparaît.
Je me souviens. Je me souviens qu'un jour, à Moscou, à l'opéra, le célèbre Silva a pris lutte grave. Au même moment, on aurait dit que c'était exprès. Il se trouvait au poulailler un chantre, une base de notre église. Et voilà que tout à coup, figurez-vous notre stupéfaction, nous entendons du poulailler « Bravo Silva !» de toute une octave plus bas. Tenez, comme ça. « Bravo Silva !» La salle a cessé de respirer.
Un ange passe.
Il faut que je parte. Adieu.
Oh, comment déjà? Nous ne vous laissons pas partir.
Mon papa m'attend.
Vraiment? Mais comme il est. Que faire? Nous regrettons. Nous regrettons de vous laisser partir.
Oh, si vous saviez comme je le regrette.
Quelqu'un devrait vous raccompagner, mon petit.
Oh non, 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 non.
Restez encore un peu.
Oh, je ne peux pas, Piotr Nikolaïtch.
Restez encore une heure et tout ça. Allons, vraiment, voyons. Hein.
Oh, impossible, je ne peux pas.
C'est une jeune fille bien malheureuse, au fond. On dit que feu sa mère a laissé à son mari toute sa fortune. Tout, jusqu'au dernier copec. Et maintenant, cette petite reste sans rien, puisque son père a déjà fait son testament au profit de sa seconde femme. C'est révoltant!
Oui. Mais son père est une belle canaille, hein. Il faut lui rendre cette justice.
Bon, eh bien, nous devrions rentrer, nous aussi, il commence à faire humide. Hein. J'ai mal aux jambes.
Mais on dirait qu'elles sont en bois, des jambes. Oui. Elles remuent à peine. Eh bien, viens! Malheureux vieillard!
Madame?
Tiens, le chien se met à hurler. Chamoyer, s'il vous plaît, pouvez-vous faire détacher le chien? Sinon, il va hurler toute la nuit. Hein?
Tout à fait impossible. Les voleurs pourraient entrer dans la grange. J'y garde le millet. Oui? Oui, de toute une octave plus bas.
Bravo, Sylvain! Ce n'était pas un chanteur, pourtant. Un simple chantre d'église.
Et combien gagne un chantre d'église?
Vous ne comprenez rien où je suis devenu fou. Cette pièce m'a plu. Elle contient quelque chose. Quand cette petite parlait de la solitude, et puis quand les yeux rouges du diable sont apparus, mes mains tremblaient d'émotion. C'est frais, c'est naïf. Il me semble que c'est lui qui vient par là. J'ai envie de lui dire un tas de bonnes choses.
Il n'y a plus personne?
Je suis là.
Macha me cherche dans tout le parc. Quelle créature insupportable.
Konstantin Gavrilovitch, votre pièce m'a énormément plu. Elle est quelque peu étrange, et puis je n'ai pas entendu la fin. Mais tout de même, l'impression est grande. Vous êtes un homme de talent, vous devez continuer. Vous êtes nerveux. Et des larmes dans les yeux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous avez pris votre sujet dans le domaine des idées abstraites, et vous avez bien fait. Une œuvre d'art doit absolument exprimer une grande idée, quelle qu'elle soit. Il n'y a que le sérieux qui soit beau. Ah, mais comme vous êtes pâle.
Ainsi, vraiment, vous me conseillez de continuer?
Oui. Mais ne montrez que ce qui est grand, ce qui est éternel. Moi, vous savez, ma vie a été très variée, j'ai vécu avec goût, je suis satisfait. Mais s'il m'était donné de connaître l'élan, l'extase qu'ont les artistes au moment de la création, il me semble que je mépriserais alors cette enveloppe matérielle et tout ce qui lui est propre. Et je m'envolerais loin, loin de la terre, loin vers les hauteurs.
Pardonnez-moi, où est Nina?
Et puis, chaque œuvre d'art doit avoir une pensée claire et définie. Vous devez savoir pourquoi vous écrivez. Mais si vous suivez ce chemin pittoresque sans un but bien défini, vous vous égarerez. Votre talent lui-même vous perdra.
Où est Nina?
Ah, elle est partie.
Que faire? Je dois la voir. Je dois la voir absolument, je vais y aller.
Calmez-vous, mon ami.
Je dois la voir, je vais y aller tout de même.
Rentrez à la maison.
Votre mère est inquiète, elle vous attend.
Dites-lui que je suis parti. Et puis je vous en prie, ne me pourchassez pas toujours ainsi. Laissez-moi tranquille.
Oh, non, mon ami, il ne faut pas, voyons.
Au revoir, docteur. Merci.
Ah, jeunesse, jeunesse.
Quand on n'a plus rien à dire, on dit jeunesse, jeunesse.
Bon. Je crois qu'on joue aux cartes à la maison. Hein? Faut y aller.
Non, attendez.
Sia.
Je veux vous dire encore une fois. J'ai besoin de vous parler. Je n'aime pas mon père. Mais j'ai pour vous une grande affection. Je ne sais pourquoi, mais je sens de toute mon âme que vous m'êtes proche. Oh, aidez-moi, aidez-moi. Ou je vais faire une bêtise. Je vais gâcher ma vie. Je n'en peux plus.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous aider en quoi?
Personne. Personne ne connaît ma souffrance. Personne ne se doute. J'aime Kostia.
Comme tout le monde est nerveux. Comme tout le monde est nerveux. Mais que d'amour. Un lac ensorcelé. Que puis-je faire, mon enfant? Que puis-je?
Le lendemain, c'est la fin de la matinée, il fait déjà chaud. Nina est seule sous la véranda. Entre Kostia, tenant un fusil de chasse et un oiseau mort.
Vous êtes seule?
Oui. Voulez-vous dire?
Aujourd'hui, j'ai eu la lâcheté de tuer cette mouette. Je la mets à vos pieds.
Qu'avez-vous?
Bientôt, de la même façon, je me tuerai moi-même.
Je ne vous reconnais plus.
Oui, depuis que j'ai cessé de vous reconnaître, vous. Vous n'êtes plus la même avec moi. Votre regard est froid. Ma présence vous gêne.
Quelque temps, vous êtes nerveux, vous vous exprimez d'une manière incompréhensible, par symbole. Cette mouette, évidemment, est un symbole aussi, mais pardonnez-moi, je ne vous comprends pas. Je suis beaucoup trop simple pour vous comprendre.
Ça a commencé le soir où ma pièce a échoué si bêtement. Les femmes ne pardonnent pas l'insuccès. J'ai tout brûlé, tout, jusqu'à la dernière feuille. Si vous saviez comme je suis malheureux. Votre changement est affreux, incroyable. C'est comme si je m'éveillais et voyais tout à coup ce lac, englouti ou desséché par la terre. Vous dites que vous êtes beaucoup trop simple pour me comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre? Ma pièce n'a pas plu.
Déjà, vous me considérez comme un homme ordinaire, une nullité, comme il y en a tant. Oh, je le comprends. Je le comprends bien. J'ai comme un clou dans la cervelle. Qu'il soit maudit, lui et mon amour propre qui boit mon sang, qu'il le boit comme une goule. Ah, voici le vrai talent qui vient. Il avance avec un livre, comme Hamlet. Des mots, des mots, des mots. Ce soleil ne s'est pas encore approché de vous que déjà vous souriez. Votre regard se perd dans ses rayons. Je ne veux pas vous déranger.
Elle prise et boit de l'eau de vie. Toujours en noir. Le maître d'école est amoureux d'elle.
Bonjour, Boris Alexeïtch.
Bonjour. Les circonstances ont tourné d'une façon imprévue et je crois que nous partons aujourd'hui. Il est peu probable que nous nous revoyions encore. Et c'est dommage. Il ne m'arrive pas souvent de rencontrer des jeunes filles, jeunes et intéressantes. J'ai déjà oublié, je n'arrive plus à m'imaginer d'une façon nette comment on se sent à 18-19 ans. C'est à cause de cela que dans mes contes et mes nouvelles, les jeunes filles ne sont pas vraies. J'aurais voulu être à votre place, ne fût-ce qu'une heure, pour apprendre comment vous pensez et puis quelle sorte de petites choses vous êtes.
Et moi, je voudrais être à la vôtre.
Pourquoi cela ?
Pour apprendre ce que ressent un écrivain connu et de grand talent. Que ressent-on quand on est célèbre ? Qu'éprouvez-vous à être connu ?
Rien du tout, je n'y ai jamais pensé. De deux choses, l'une, ou bien vous vous exagérez, ma célébrité, ou bien ça ne s'éprouve d'aucune façon.
Oh, mais quand vous lisez dans les journaux, ce qu'on dit de vous ?
Quand on dit du bien, c'est agréable, et quand on dit du mal, on est de mauvaise humeur pendant deux jours.
Oh, quel monde enchanté ! Si vous saviez comme je vous envie ! Le sort des humains est si divers. Les uns traînent à peine leur pitoyable, leur insignifiante existence. Ils se ressemblent tous, tous sont malheureux. Et d'autres, vous par exemple, un parmi des millions, ont une destinée intéressante, lumineuse, pleine de signification. Vous êtes heureux ?
Moi ? Vous me parlez de la célébrité, du bonheur, d'une certaine vie lumineuse et intéressante. Et pour moi, tous ces jolis mots, je vous demande pardon, sont comme de la marmelade dont je ne mange jamais. Vous êtes très jeune et très bonne.
Mais votre vie est belle.
Qu'y a-t-il de si bon en elle ? Je dois aller travailler, je n'ai pas le temps. Excusez-moi. Vous avez mis le doigt sur la plaie, voilà que je m'énerve, que je me fâche un peu. Mais parlons. Parlons de ma vie lumineuse et belle. Eh bien, par quoi commençons-nous ? Il arrive qu'on ait des idées fixes, quand par exemple, jour et nuit, on ne pense qu'à la lune. Eh bien, moi, j'ai aussi ma lune. Une même pensée dont je ne puis me débarrasser me poursuit, nuit et jour. Je dois écrire. À peine ai-je terminé une nouvelle qu'aussitôt, je ne sais pourquoi, je dois en commencer une autre, puis une troisième, après la troisième, une quatrième. J'écris sans cesse, je me hâte comme un cheval de course, je ne puis faire autrement. Eh bien, qu'y a-t-il de beau et de lumineux là-dedans ? Je vous demande un peu. Ah, quelle vie bizarre. Voilà, je suis avec vous, je vous parle, je suis même ému. Et cependant, je me rappelle à chaque instant qu'une nouvelle qui n'est pas terminée m'attend. Je vois un nuage en forme de piano à queue. Aussitôt, je pense, il faudra dire dans un récit quelconque qu'un nuage en forme de piano à queue passait dans le ciel. Y a-t-il dans l'air une odeur d'héliotrope ? Aussitôt, j'enregistre l'odeur suave, la couleur des veuves. Il faudra rappeler ça en décrivant une soirée d'été.
Je saisis au vol toutes mes phrases, tous mes mots ainsi que les vôtres, et je me hâte d'enfermer aussitôt toutes ces phrases et tous ces mots dans mon garde-pensée littéraire. J'en aurais peut-être besoin. Une fois le travail fini, je cours au théâtre ou bien à la pêche. C'est là qu'on peut se délasser, s'oublier. Eh bien, non. Un boulet de fer roule déjà dans ma tête. C'est un nouveau thème. La table m'attire. Il faut écrire, écrire encore. Et c'est toujours, toujours ainsi. Et je ne peux pas me fuir moi-même. Et je sens que je tue ma vie. Je sens que pour le miel que je donne aux inconnus, j'amasse le pollen de mes fleurs les plus belles. Je les arrache elles-mêmes et je foule aux pieds leurs racines. Ne suis-je pas fou? Mes amis me traitent-ils comme une personne saine? Qu'écrivez-vous en ce moment? Quelle surprise nous réservez-vous? C'est toujours la même chose, la même chose. Il me semble que cette bienveillance, ces louanges, cette admiration, tout cela n'est que mensonge. Oui, on me trompe, comme un malade, et parfois j'ai peur que quelqu'un se glisse derrière moi pour me saisir et m'enfermer dans une maison de fous. Et dans les années de ma jeunesse, mes meilleures années, quand je commençais seulement, mon travail littéraire n'était qu'une torture continuelle. Un petit écrivain, surtout lorsqu'il n'a pas de chance, se sent lui-même gauche, maladroit, superflu, ses nerfs sont tendus, fatigués. Il ne peut s'empêcher de rôder dans le monde littéraire et artistique, méconnu, inaperçu, ayant peur de regarder droit en face, comme un joueur passionné qui n'a pas d'argent. Je ne voyais pas mon lecteur, mais je ne sais pourquoi je me représentais hostile et méfiant. Je craignais le public qui me faisait peur, et quand il m'arrivait de donner une nouvelle pièce au théâtre, il me semblait chaque fois que les bruns étaient mal disposés à mon égard, et les blonds froids et indifférents. Ah, si vous saviez comme c'est affreux, un vrai martyr.
Permettez, mais l'inspiration, le fait même de la création, ne vous donne-t-il pas des moments de joie, d'extase?
Oui, il est agréable d'écrire, il est agréable de lire les épreuves, mais aussitôt que le livre est paru, je vois que ce n'est pas ça du tout, que je me suis trompé, que j'aurais dû ne pas l'écrire du tout. Je suis ennuyé et mal à mon aise. Mais le public lit. Oui, ce n'est pas mal. C'est gentil. Ce n'est pas sans talent. Pas mal, mais ce n'est pas du Tolstoï. Ou bien, c'est une belle chose, mais père et enfant de Turgenev, c'est tout de même mieux. Et jusqu'à la fin de mes jours, ce ne sera que gentil, pas sans talent, pas autre chose. Et quand je serai mort, les amis, en passant près de ma tombe, diront « Ici repose Trigorin, c'était un bon écrivain, mais il n'écrivait pas aussi bien que Turgenev. »
Pardonnez-moi, mais je renonce à vous comprendre. Vous êtes tout simplement gâté par le succès.
Par quel succès? Je ne me suis jamais plu à moi-même, je ne m'aime pas comme écrivain. Mais le pire, c'est que je suis comme dans un brouillard et que souvent, je ne comprends pas ce que j'écris. J'aime cette eau, ces arbres, ce ciel, je sens la nature, elle éveille en moi la passion, l'invincible désir d'écrire. Mais je ne suis pas seulement un paysagiste, je suis aussi un citoyen, j'aime ma patrie, mon peuple. Je sens que du moment que je suis écrivain, je dois parler de mon peuple, de ses souffrances, de son avenir, parler de la science, des droits de l'homme, etc. Et je parle de tout ça, je suis pressé, on me pousse, on se fâche, je me jette d'un côté à l'autre comme un renard traqué par les chiens. Je vois que la vie, la science vont toujours de l'avant, et moi, je reste de plus en plus en arrière, comme un paysan qui a manqué son train. Et je finis par comprendre que je suis bon tout au plus à peindre un paysage, mais dans tout le reste, je suis faux, faux jusqu'à la moelle des os.
Oh, vous travaillez trop. Vous n'avez ni le temps, ni le désir de comprendre toute votre valeur. Vous n'êtes pas content de vous, soit. Mais pour les autres, vous êtes grand et beau. Si j'étais un écrivain comme vous, j'aurais donné toute ma vie à la foule. Mais je saurais aussi que le plus grand bonheur pour elle serait de s'élever jusqu'à moi et elle me mènerait dans un char de triomphe.
Oh, dans un char de triomphe. Je ne suis pas Agamemnon.
Mais pour le bonheur d'être écrivain ou actrice, j'aurais supporté l'indifférence de ceux qui me sont chers, la misère, la déception. J'aurais pu vivre dans un grenier et manger du pain noir. J'aurais pu passer par toutes les souffrances de l'artiste qui voit sa propre imperfection, passer par toutes les désillusions. Mais en revanche, j'aurais exigé la gloire, la vraie gloire, la gloire retentissante. Oh, la tête me tourne.
Alexeïtch!
On m'appelle pour faire les valises, probablement. Je n'ai pas envie de partir. Comme c'est beau, quelle bénédiction!
Voyez-vous de l'autre côté du lac une maison et un jardin?
Oui.
C'est la maison de ma mère. Ma mère est morte. Je suis née dans cette maison. J'ai passé toute ma vie au bord du lac. Je connais toutes les petites îles.
Je n'ai pas envie de partir. Oh, qu'est-ce que c'est?
Une mouette. C'est Kostia qui l'a tuée.
Le bel oiseau. Vraiment, je n'ai pas envie de partir. Et vous, si vous pouviez persuader Lina Nikolaïevna de rester encore un jour ou deux.
Qu'écrivez-vous?
Oh, rien, une note, un sujet qui me vient à l'esprit, un sujet pour un petit conte. Au bord d'un lac, une jeune fille vit depuis son enfance. Une jeune fille comme vous. Elle aime ce lac comme une mouette. Elle est heureuse et libre comme une mouette. Mais voilà qu'arrive un homme, la voit et par désœuvrement. La paire. Comme cette mouette.
Boris Alexeïtch, où êtes-vous?
Voilà, voilà. Qu'y a-t-il?
Nous restons.
Ah, oh, c'est un rêve.
Ainsi vont les choses. Kostia a tenté de se tuer, mais à peine s'est-il blessé à la tête. Arkadina et Trigorine vont partir pour Moscou. Et c'est comme si ce départ faisait de Trigorine un confesseur prêt à entendre les confidences des jeunes filles. Masha est venue lui raconter sa vie et son amour impossible pour Kostia. Alors, elle épousera l'instituteur qui est bon, pauvre et pas très intelligent. Nina, elle aussi, s'est confiée. Elle veut faire du théâtre. En fera-t-elle? Puis elle a offert à Trigorine un médaillon dans lequel est gravé le titre de son dernier livre, Les jours et les nuits. Et cette indication, page 121, lignes 11 et 12. Trigorine est intriguée. De leur côté, Sorine et Arkadina tuent la journée en bavardant.
Ainsi je vais partir. Je ne saurai jamais pourquoi Kostia a tenté de se suicider.
Je pense que la jalousie était la raison principale. Ouais. Plutôt j'emmènerai Trigorine d'ici, mieux ça vaudra.
Oui, je... Comment... Comment te dire... Il y avait d'autres raisons aussi. Oui, la chose est compréhensible. Un jeune homme intelligent qui habite la campagne. Un trou. Quoi, oui, un trou. Sans argent, sans situation, sans avenir. Pas d'occupation. Il a honte de son oisiveté, voyons. Je l'aime beaucoup et il m'est très attaché, mais tout de même, la fin des fins, il lui semble qu'il est de trop dans cette maison, qu'il n'est qu'un pique-assiette, qu'un étranger. Oui, la chose est compréhensible, voyons. L'amour propre...
Que de chagrin, que de soucis il me donne.
Mais s'il trouvait une place, un travail quelconque, hein?
Le mieux, le mieux pour lui serait de, si tu pouvais lui donner un peu d'argent. Ah ben quoi, tout d'abord il doit s'habiller convenablement, enfin regarde donc, il porte ce malheureux veston depuis, je sais pas, 3 ans, allons, il n'a pas de par-dessus, il, et puis quoi, ça ne lui ferait pas de mal à ce pauvre garçon de s'amuser un peu et tout ça, un petit voyage à l'étranger, ça ne coûte pas si cher.
Oh, hein? Tout de même.
Ah oui.
Bon. Je pourrais peut-être lui payer le veston.
Ah ben, c'est déjà ça.
Mais quant au voyage à l'étranger, non.
Ah bon.
En ce moment, je ne peux même pas lui payer le veston. Je n'ai pas d'argent. Je n'en ai pas.
Et ben voilà. Oh. Ah non, je t'en prie, ma chérie, je te crois, tu es une femme noble et généreuse.
Je n'ai pas d'argent.
Non, mais si j'avais de l'argent, moi, je lui en donnerais, cela va sans dire, mais je n'en ai pas, je n'ai rien, pas d'un sou. Toute ma pension est accaparée par mon géant pour l'élevage du bétail, l'agriculture, l'apiculture, si bien que tout mon argent est dépensé pour rien. Les vaches crèvent, les abeilles crèvent, les chevaux, on ne me les donne pas.
Eh bien, oui, j'ai de l'argent.
Ah bon, hein?
Mais je suis une artiste.
Ah ben voilà.
Et rien que les toilettes me ruinent complètement.
Ah ouais. Ruine. Je sais, je te crois. Tu es bonne, tu es gentille. Je t'estime. Donc c'est...
Non.
Et douceur.
Non.
Oh.
Oh. Oh non, Petroucha. Oh, Petroucha, mon cher Petroucha. Oh. Aidez-moi. Oh. Aidez-moi, voyons, aidez-moi. Il se trouve mal, vite. Oh. Vite, faites quelque chose, oui, de l'eau, vite. Oh.
Petroucha.
Oh, mon petit frère.
Oh.
Oh. Oh. Oh.
Oh. C'est de l'eau. Ça va mieux. Ça y est, c'est fini, merci. C'est tout.
N'aie pas peur, maman, ça lui arrive souvent ces temps-ci.
Oh.
Tu devrais aller un peu te coucher, mon oncle.
Hein? Oui, un peu. Je vais un peu me... oui, ça va, je vais... j'irai quand même à la ville. Ça se comprend. Bon, je vais m'allonger un peu. Hein?
Il y a une devinette.
Ah oui, bon.
Le matin à 4 pattes, à midi à 2 et le soir à 3.
Oui, comme vous dites, et la nuit sur le dos. Oui.
Il m'a fait peur.
Ça ne lui réussit pas de vivre à la campagne. Il s'ennuie. Vois-tu, maman, si tu voulais être généreuse, si tu voulais ouvrir un peu ta bourse, lui prêter 1500 ou 2000 roubles, il pourrait passer toute une année à la ville.
Je n'ai pas d'argent. Mais je suis une artiste, pas un banquier!
Tu veux me refaire mon pansement, tu le fais si bien.
Oui.
Le docteur n'est pas encore arrivé?
Il avait promis d'être là à 10h, il est déjà midi.
Assieds-toi. On dirait que tu as un turban. Hier, un homme qui venait d'arriver a demandé à la cuisine de quelle nationalité tu étais. Mais c'est presque fini, il ne reste presque rien. Et quand je ne serai pas là, tu ne feras plus pan-pan.
Non. C'était un moment de folie, de désespoir. Je n'étais plus maître de moi-même. Je ne recommencerai plus. Je me souviens, il y a longtemps de cela, tu étais encore au théâtre impérial. Oh, j'étais alors tout petit. Il y a eu une querelle chez nous dans la cour. Quelqu'un a battu la blanchisseuse qui habitait la même maison que nous, tu te souviens? On l'a ramassée sans connaissance. Tu allais souvent la voir. Tu lui portais des médicaments. Tu lavais ses enfants. Oh. Tu te souviens pas? Mais c'est pas possible.
Mais non.
Deux petites danseuses habitaient le même immeuble que nous. Elles venaient souvent prendre le café chez nous.
Ça, je me le rappelle, oui.
Elles étaient tellement pieuses.
Oui.
Ces jours-ci, ces temps derniers, je t'aime tendrement, de toute mon âme, comme dans mon enfance. Je n'ai plus personne maintenant. Plus personne que toi. Mais pourquoi? Pourquoi es-tu sous l'influence de cet homme?
Mais tu ne le comprends pas, Kostia. C'est l'homme le plus noble du monde.
Cependant, lorsqu'on lui a annoncé que je voulais le provoquer, cette noblesse ne l'a pas empêché d'avoir peur. Il part. Quelle fuite honteuse.
Quelle absurdité! C'est moi qui lui ai demandé de partir.
Ah, l'homme le plus noble du monde! Et voilà. Nous nous disputons presque à cause de lui, et lui, pendant ce temps-là, il est quelque part au salon ou au jardin en train de se moquer de nous. Il fait l'éducation de Nina. Il essaie de la convaincre définitivement qu'il est un génie.
Tu as du plaisir à me dire des choses désagréables? J'estime cet homme, et je te prie de ne pas dire du mal de lui devant moi.
Eh bien, moi, je ne l'estime pas. Tu veux que je le prenne pour un génie? Moi aussi, pardonne-moi, je ne puis pas mentir. Ses œuvres me dégoûtent.
C'est de la jalousie. Les gens sans talent et prétentieux ne peuvent pas faire autrement que de dénigrer le vrai talent. Jolie consolation, il n'y a pas à dire.
Le vrai talent? Mais si nous en sommes là... J'ai plus de talent que vous tous!
Dis donc!
Vous, esprit routinier, vous avez accaparé la première place dans l'art. Et vous n'estimez vrai, juste, que ce que vous faites vous-même. Le reste, vous le persécutez, vous l'étouffez. Mais je ne vous admets ni toi, ni lui.
Moderniste décadent!
Allez, va, retourne dans ton théâtre bien-aimé. Va jouer tes pièces pitoyables, ridicules.
Ah, mais jamais je ne joue de pareilles pièces! Toi, tu n'es même pas capable d'écrire un méchant vaudeville. Bourgeois de Kiev, picassiette,
avare,
misérable, va-nu-pied, propre à rien! Non, ne pleure pas. Non, ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas. Non, non, non. Oh, mon enfant chéri. Oh, pardonne-moi. Pardonne à ta mère coupable. Pardonne à la misérable.
Si tu savais, j'ai tout perdu. Elle ne m'aime plus, je ne peux plus écrire, tous mes espoirs sont brisés.
Oh non, non, ne te désespère pas. Tout s'arrangera. Il va partir. Elle t'aimera de nouveau. Oh, allez, c'est fini. C'est fini, nous voilà réconciliés.
Oui.
Moi, écoute. Réconcilie-toi avec lui aussi. Il ne faut pas de duel. Il ne faut pas, n'est-ce pas?
Entendu. et permets-moi de ne pas le voir. C'est au-dessus de mes forces. Voilà. Je m'en vais. Le pansement, le docteur s'en chargera.
Page 121, numéro 12.
Voilà.
Si jamais tu as besoin de ma vie, viens et prends-la.
Les chevaux seront bientôt là.
Si jamais tu as besoin de ma vie, viens et prends-la.
J'espère que tu es prêt.
Oui, oui. Pourquoi dans cet appel d'une âme pure ai-je entendu un accent de tristesse? J'ai senti mon cœur se serrer d'angoisse. Restons encore un jour. Restons.
Mon chéri, je sais ce qui te retient ici. Mais ressaisis-toi. Tu es grisé. Sois raisonnable.
Sois raisonnable, toi aussi, sois juste. Réfléchis, je t'en supplie, tâche de voir les choses en véritable, ami. Tu es capable de faire des sacrifices. Sois mon ami, laisse-moi ma liberté.
Tu es épris à ce point-là?
Quelque chose m'attire vers elle, peut-être est-ce justement ce qu'il me faut.
L'amour d'une petite provinciale? Comme tu te connais mal.
Quelquefois, on dort en marchant. Eh bien, je te parle, il me semble que je dors et je la vois en rêve. Des rêves doux, merveilleux se sont emparés de moi. Laisse-moi ma liberté.
Non. Non. Mais je ne suis qu'une femme comme toutes les autres. On n'a pas le droit de me parler ainsi. Oh, ne me torture pas, Boris. J'ai peur.
Si tu le veux, tu peux être au-dessus des autres. L'amour jeune, beau, poétique qui vous emporte dans le monde des rêves, cet amour seul peut me donner le bonheur sur Terre. Un tel amour, je ne l'ai encore jamais connu. Quand j'étais jeune, je n'avais pas le temps, je courais les rédactions, je luttais contre la misère. Cet amour est là, enfin, il m'appelle, pourquoi le fuirais-je?
Tu es fou!
Tant pis.
Mais vous avez décidé tous de me torturer aujourd'hui!
Elle ne comprend pas, elle ne veut pas comprendre.
Et... suis-je donc déjà si vieille? Et si laide? Qu'on puisse sans se gêner parler devant moi d'autres femmes. Oh, mais tu as perdu la raison. Mon amour, mon bonheur, tu es la dernière page de ma vie. Ma joie, mon orgueil, mon ivresse. Mais si tu m'abandonnes pour une heure seulement, je n'y survivrai pas. Je deviendrai folle. Tu es ma vie, mon soleil, mon maître.
Quelqu'un peut entrer.
Mais qu'on entre, je n'ai pas honte de mon amour pour toi. Oh, mon trésor! Mon trésor! Mais quelle tête folle! Tu veux faire des folies, mais moi je ne veux pas, je ne te laisserai pas! Tu es à moi! Tu es à moi! Ce front est à moi! Ces yeux sont à moi! Ces beaux cheveux soyeux sont à moi aussi! Tu es tout à moi! Tu as un si grand talent. Tu es si intelligent. Tu es le meilleur de tous les écrivains contemporains. Tu es le seul espoir de la Russie. Tu as tant de sincérité, de simplicité, de fraîcheur, de saine gaieté. Tu sais d'un seul trait exprimer l'essentiel. Ce qui caractérise des types, les paysages, tes personnages sont vivants. Mais on ne peut te lire sans admiration. Oh, tu crois que je t'encense, que je te flatte. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Ai-je l'air d'une menteuse? Tu vois, moi seule je sais t'apprécier. Moi seule je te dis la vérité. Mon chéri, mon amour. Tu partiras avec moi, dis. Tu ne me quitteras pas!
Je Je n'ai pas de volonté, je n'ai jamais eu de volonté. Faible, triste, toujours soumis. Comment cela peut-il plaire aux femmes? Prends-moi, emmène-moi, mais garde-moi toujours près de toi.
Il est à moi. Mais tu peux rester si tu veux. Je partirai la première et toi tu viendras me retrouver plus tard, dans une semaine. En effet, rien ne presse.
Non, il vaut mieux que nous partions ensemble.
Comme tu voudras. Partons ensemble. Qu'écris-tu?
Ce matin, j'ai entendu une expression heureuse. Oui. La forêt aux jeunes filles. Je m'en servirai. Donc, nous partons. De nouveau, les wagons, les stations, les buffets, les côtelettes, les conversations.
À mon grand regret, j'ai l'honneur de vous annoncer que les chevaux sont là. Il est temps d'aller à la gare. Chère Madame Lebrun arrive à 2h05. Irina, Nikolaïevna, je vous en prie, n'oubliez pas de m'obtenir ce renseignement. Où se trouve maintenant l'acteur Souzdaltsev? Est-il vivant? Se porte-t-il bien? Ah, jadis, nous avons trinqué ensemble. Dans l'attaque de la poste, il jouait admirablement bien. Ah, je me souviens qu'à l'époque, dans le même théâtre, jouait le tragédien Ismailov. Un type extraordinairement bien aussi. Oh, ne vous pressez pas, ma chère, nous avons encore 5 minutes à notre disposition. Une fois dans un mélodrame, ils jouaient tous les deux le rôle des conspirateurs. Et quand on les attrapait, ils devaient dire « Quelle bouche vous pique ?» Et Ismailov a dit « Quelle biche vous pouque ?» Pouque.
Voilà des prunes pour votre voyage. Elles sont très sucrées. Vous aurez peut-être envie de douceur.
Vous êtes trop bonne.
Adieu, ma chère.
Adieu.
Si quelque chose vous a déplu, mécontenté, pardonnez-nous.
Mais tout a été bien. Tout a été très bien. Seulement, il ne faut pas pleurer. Oh, mon Dieu.
Comme le temps passe.
Que faire?
Il faut nous dépêcher, ma chère. Sinon, nous finirons par être en retard à la fin de... On t'attend dans les voitures.
Je vais à la gare à pied pour vous accompagner, je fais vite.
Au revoir, mes amis, si nous sommes en bonne santé et encore de ce monde. Nous nous reverrons l'été prochain. Ne m'oubliez pas. Voici 1 rouble. Pour vous trois.
Merci bien, madame. Voilà. Bon voyage.
Que Dieu vous garde.
Faites-nous l'honneur d'une petite lettre. Adieu, par exemple.
Mais oui, Kostia, depuis que je parle, il faut nous dire adieu. Gardez un bon souvenir de nous. J'ai donné 1 rouble au cuisinier. C'est pour tous les trois. Hein? Voilà.
Merci.
Alors,
madame.
Au revoir. Au revoir. Avez-vous
compris? Prenez.
J'ai oublié ma canne, je crois qu'elle est ici sur la terrasse. C'est vous, nous partons.
J'avais le pressentiment que nous nous reverrions, Boris Alexeïtch. Ma décision est prise, le sort en est jeté, je vais faire du théâtre. Demain, je ne serai plus là. Je quitte mon père, je laisse tout. Je commence une vie nouvelle. Moi aussi, je pars pour Moscou, nous nous reverrons là-bas.
Descendez au Grand Hôtel, 17 place du Kremlin. Prévenez-moi dès votre arrivée, je suis pressé.
Encore un moment.
Vous êtes si belle. Quel bonheur de penser que nous nous reverrons bientôt. Je verrai encore ces beaux yeux, ce sourire d'une beauté, d'une tendresse inexprimable, ces traits si fins, cette expression si angélique. Oh, mon amour.
Deux années ont passé. Le salon de Sorine a été transformé en bureau. À une table de travail, Kostia écrit. Il a changé. Son regard est assuré. Il est vêtu avec élégance. Il semble très maître de lui et conscient de sa valeur, du rôle qu'il doit jouer. Pauline et Masha entrent pour faire le lit du vieux Sorine qui a demandé à dormir dans le bureau de Kostia. Pauline s'approche affectueusement de Kostia.
Qui aurait cru que vous deviendriez un véritable écrivain? Et voilà que, grâce à Dieu, les revues commencent même à vous envoyer de l'argent. Qu'il est devenu beau. Mon cher, mon Kostia, soyez plus aimable avec Masha.
Oh, maman, laissez-le.
Elle est gentille. Que faut-il à une femme, Kostia? Un regard affectueux, c'est tout. Je le sais par moi-même.
Et voilà. Il est parti. Mais qu'aviez-vous besoin de l'ennuyer?
J'ai de la peine pour toi.
À quoi cela sert-il?
J'ai le cœur bien gros pour toi, Masha. Crois-tu que je ne sache rien, que je ne comprenne rien?
Ce sont des bêtises. L'amour sans espoir, c'est seulement dans les romans. Il ne faut pas se laisser aller, toujours attendre, on ne sait quoi. Attendre que les étoiles vous tombent du ciel. Quand l'amour s'est installé dans le cœur, il faut l'en chasser. On nous a promis d'envoyer mon mari dans un autre département. Une fois là, j'oublierai tout. J'arracherai tout de mon cœur.
Kostia joue. C'est qu'il est triste.
Ce que je veux surtout, maman, c'est ne plus la voir devant mes yeux. Je souhaite qu'on envoie mon mari très loin d'ici. Et alors, croyez-moi, au bout d'un mois, tout sera oublié. Ce n'est rien, tout ça.
Maintenant, nous sommes 6 à la maison et la farine est à 70 copecs le pot.
Et voilà, débrouille-toi comme tu peux.
Oh, vous pouvez rire, vous qui ne savez que faire de votre argent.
De l'argent? Durant 30 années de pratique, mon ami, et de pratique pénible, car je ne m'appartenais ni jour ni nuit, j'ai réussi à mettre de côté 2000 roubles en tout et pour tout. Et encore, j'ai tout dépensé dernièrement à l'étranger, il ne me reste rien.
Tu n'es pas encore parti?
Que veux-tu? On ne me donne pas de chevaux.
Si seulement mes yeux ne te voyaient plus.
Et que le changement chez vous, vous avez transformé le salon en bureau?
Oui. Kostia est mieux ici pour travailler. Et puis, il peut aller au jardin quand il veut pour se recueillir.
Où est ma sœur?
Attendez la gare, chercher Trigorine. Elle va bientôt revenir.
Si vous avez jugé nécessaire de faire venir ma sœur, c'est que je suis gravement malade. Étrange chose. Je suis gravement malade et pourtant on ne me donne aucun médicament.
Alors, que voudriez-vous ? La valériane, du bicarbonate de soude, de la quinine ?
Voilà la philosophie qui recommence. Ah, mon Dieu, quelle torture ! Oh là 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 ! C'est pour moi, ce lit.
Pour vous ?
Bon, merci.
Comme la plume au vent.
Tiens, je veux donner à Kostia une idée pour une histoire qui portera ce titre, L'homme qui a voulu. The man who wished. Jadis, dans ma jeunesse, j'ai voulu devenir homme de lettres. Je ne le suis pas devenu. J'ai voulu être éloquent. J'ai toujours parlé d'une façon lamentable et tout ça, et ça, et pas ça, et autre. Et souvent, je bafouillais. J'étais tout en âge. J'ai voulu me marier. Je ne me suis pas marié. J'ai voulu habiter la ville. C'est à la campagne que je termine mes jours. C'est tout.
J'ai voulu être excellent. Et je le suis devenu.
Ça, je ne l'ai pas voulu. C'est arrivé tout seul.
Non, non. Exprimer le mécontentement de sa vie à 62 ans, convenez-en. Ça manque de générosité.
Oh, quel entêté, alors. Mais comprenez donc, je veux vivre.
Ah, mais ça, c'est de la frivolité. D'après les lois de la nature, toute vie doit avoir une fin.
Oh, ouais. Vous raisonnez comme un homme blasé à qui tout est indifférent. Mais vous verrez, vous aurez peur de mourir, vous aussi, un jour.
La peur de la mort, non, c'est une peur bestiale. Il faut l'étouffer.
Ah, pardon.
Seuls ceux qui croient à la vie éternelle ont une peur consciente de la mort parce qu'ils ont peur de leur péché. Mais vous, premièrement, vous n'êtes pas croyant. Deuxièmement, quel péché pouvez-vous avoir commis ? Vous avez travaillé pendant 25 ans au ministère de la Justice, c'est tout.
Non, 28. 28.
Ah, Konstantin Gavrilovitch, nous ne vous dérangeons pas ?
Non, pas du tout.
Permettez-moi de vous demander, docteur, quelle est la ville que vous préférez à l'étranger ?
Gênes.
Pourquoi Gênes ?
Ah, c'est la foule qui fait la beauté de cette ville. Quand vous sortez de votre hôtel le soir, la rue est noire de monde. Alors, vous errez dans cette foule, sans but précis. Vous allez de ci, de là, suivant une ligne brisée. Vous vivez avec la foule, vous vous confondez avec elle, psychologiquement. Et vous arrivez à croire que l'âme commune du monde peut exister vraiment. Semblable à celle que Nina incarnait autrefois dans votre pièce. À propos, où est-elle maintenant ? Que fait-elle ?
Elle se porte bien, probablement.
On m'a dit qu'elle avait mené une vie étrange, n'est-ce pas ?
C'est une longue histoire, docteur.
Eh bien, racontez-la en quelques mots.
Elle s'est enfuie de chez elle. Puis elle a vécu avec Trigorine. Vous le saviez ?
Oui, ça, je le savais.
Elle a eu un enfant. L'enfant est mort. Puis Trigorine s'est lassé d'elle et il est retourné à ses anciennes amours comme il fallait le prévoir. D'ailleurs, il n'a jamais quitté ses anciennes amours. Mais n'ayant pas de volonté, comme toujours, il a trouvé le moyen de concilier les deux choses. Autant que j'ai pu le comprendre, du peu que je savais, Nina n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie.
Et au théâtre ?
Encore moins, ce qu'il paraît. Elle a débuté près de Moscou, dans un théâtre de banlieue. Puis elle est allée en province. À cette époque, je la suivais partout et pendant un certain temps, je ne la perdais pas de vue. Elle choisissait toujours les grands rôles. Mais elle jouait sans finesse, sans goût. Elle déclamait, ses gestes étaient brusques. Il y avait des moments de talent. La mort, un cri. Mais ce n'était que des moments.
Alors elle a du talent tout de même.
C'est difficile à dire, oui. Peut-être bien. Je la voyais. Et elle ne me voyait pas.
Elle ne voulait jamais me recevoir. Je comprenais son état d'âme et je n'insistais pas. Que vous dire encore ? Plus tard, quand je suis revenu ici, je reçus des lettres d'elle. Des lettres intelligentes, intéressantes, affectueuses. Elle ne se plaignait pas, mais je comprenais qu'elle était très malheureuse. Chaque ligne de ses lettres n'était que l'expression de son imagination malade, de ses nerfs tendus. Elle signait « Mouette ». Dans Pouchkine, vous le savez, le meunier devenu fou dit qu'il est un corbeau. Elle disait toujours qu'elle était une mouette. Maintenant, elle est ici.
Ici, comment ?
Oui, en ville, dans une petite auberge. Elle y est arrivée il y a 5 jours. J'ai tenté de la voir. Masha aussi y est allée. Mais elle ne veut recevoir personne. Medvedenko prétend l'avoir vue hier, après le dîner dans les champs, 2 verstes d'ici.
Oui, je l'ai vue. Elle allait de ce côté, vers la ville. Je l'ai saluée, je lui ai demandé pourquoi elle ne venait pas nous voir. Elle a dit qu'elle viendrait.
Elle ne viendra pas. Son père et sa belle-mère ne veulent rien savoir d'elle. Ils ont mis des gardiens partout pour qu'elle ne s'approche pas de la maison. Comme il est facile, docteur, d'être philosophe sur le papier, comme il est difficile de l'être dans la vie.
C'était une jeune fille charmante.
Comment ?
Je dis que c'était une charmante jeune fille. Votre serviteur, son Excellence le Général Sorine, fut même amoureux d'elle pendant un certain temps.
Un vieux coureur.
Oh, je crois qu'ils sont arrivés.
Ah oui, j'entends la voix de maman.
Nous tombons un pétalope, nous avons des éléments de la vie. Et vous, chère madame, vous êtes éternellement jeune. Une blouse claire, de la vivacité, de la grâce.
Vous allez encore me porter malheur, insupportable personnage.
Bonjour, Piotr Nikolaïtch. Toujours malade, ce n'est pas bien ça. Maria Ilitchna.
Oh, on m'avait reconnu. Oui.
Heureuse. Votre mère m'a dit que vous avez oublié le passé, que vous n'êtes plus fâché.
Boris Alexeïtch a apporté cette revue qui contient ton dernier compte.
Je vous remercie, vous êtes très aimable.
Nos éditeurs vous envoient leurs compliments. En général, on s'intéresse beaucoup à vous à Pétersbourg et à Moscou. On me questionne toujours sur vous, on me demande comment est-il, quel âge a-t-il, est-il brun ou blond. Je ne sais pourquoi, on croit toujours que vous n'êtes plus jeune. Et comme vous signez toujours avec un pseudonyme, personne ne connaît votre vrai nom. Vous êtes mystérieux comme le masque de fer.
Vous êtes là pour longtemps ?
Non, je pense partir pour Moscou demain même. Il le faut. Je vais vite terminer une nouvelle et puis j'ai promis de donner quelque chose à une revue. Enfin, c'est toujours la même histoire. Le temps ne m'a pas fait un bon accueil. Un vent épouvantable. Demain matin, s'il fait meilleur, j'irai sur le lac taquiner le poisson. Et puis je voudrais revoir le jardin et cet endroit où, vous vous souvenez, on a joué votre pièce. Je pense à un sujet nouveau, mais il faut que je revoie le lieu de l'action.
Papa, donnez des chevaux à mon mari, il doit rentrer à la maison.
Des chevaux ? À la maison ? Mais tu as vu toi-même que tout à l'heure je les ai envoyés à la gare. On ne peut tout de même pas les fatiguer de nouveau.
Mais il y a d'autres chevaux ! Avoir affaire à vous.
Écoute, Masha, vraiment, je rentrerai à pied.
À pied. Par un temps pareil. Venez donc tous, je vous en prie.
Il n'y a que 6 verstes.
Au revoir, Masha. Au revoir, maman. Je n'aurais dérangé personne.
Mais notre petit enfant. Au revoir.
Non.
Oui. Il peut bien marcher un peu. Ça n'est pas un prince.
Venez tous, ne perdons pas de temps. On va bientôt souper.
Lorsqu'arrivent les longues soirées d'automne, nous jouons au loto ici. Regardez, le vieux loto avec lequel notre mère joue avec nous quand nous étions encore enfants. Voulez-vous faire une partie avant le souper? C'est un jeu un peu ennuyeux, mais quand on en a pris l'habitude, il a du bon.
Il a bien lu sa nouvelle, mais la mienne, il ne l'a même pas coupée.
Et toi, Christian?
Non, merci, je préfère faire un tour.
Bon. Alors, la mise est de 10 copecs. Vous donnez pour moi, docteur?
Ah bon, j'obéis.
Mon ami?
Oui?
Je commence. Alors, le 22. Je l'ai. 3.
Oui, bon.
Vous avez 1003.
Exactement.
8, 81, 10.
Non, pas si vite, pas
quel accueil on m'a fait à Kharkov. Oui. Mon Dieu, j'en ai encore le vertige.
34.
Les étudiants m'ont fait une ovation. 3 corbeilles, 2 gerbes de roses, et puis, tenez, ceci.
Oh, en effet, c'est quelque chose.
50.
50, juste?
Oui. J'avais une toilette ébouriffante. La toilette, c'est ma spécialité.
98. Kostia joue. Il est triste, le pauvre.
Les journaux le critiquent.
77.
Aucune importance.
Il n'a pas de chance. Il n'arrive pas à trouver son véritable genre. Tout ce qu'il écrit est étrange, extraordinaire. Ça donne même parfois l'impression d'un délire. Pas un seul personnage réel.
11. Petrucha, tu t'ennuies?
Oh.
Il dort.
Son Excellence, Monsieur le Général, dort.
7,90.
Si je vivais dans une propriété comme la vôtre au bord d'un lac, je ne me soucierais pas d'écrire. Je toufferais en moi cette passion, je ne ferais que pêcher à la ligne.
26.
Attraper une perche, c'est un tel délice.
Mais moi j'ai foi en Konstantin Gavrilovitch.
39.
Il y a de l'étoffe en lui, il y a quelque chose. Ses idées sont imagées, ses récits sont vifs, colorés. Ah, je les comprends tellement bien. Dommage seulement qu'il n'ait pas un but précis. Il improvise, il impressionne, c'est tout. Avec l'impression seule, on ne va pas loin.
13.
Irina Nikolaevna, êtes-vous contente au moins d'avoir un fils écrivain?
Eh bien, figurez-vous que je n'ai encore rien lu de lui.
Oh.
Je n'ai pas le temps.
28. Oh. Qui a le 28?
Boris Alexeïtch, vous avez laissé chez nous une chose qui vous appartient.
Quelle chose?
Un jour, Konstantin Gavrilovitch a tué une mouette. Et vous m'aviez chargé de la faire empailler.
Je ne m'en souviens pas, Je ne m'en souviens pas.
66.
Comme il fait noir, je ne comprends pas d'où me vient cette angoisse.
Hostia, ferme la fenêtre, il fait trop frais.
88.
J'ai gagné.
Oh, cet homme a de la chance en tout et partout. Maintenant, allons manger quelque chose. Notre célébrité n'a pas encore dîné aujourd'hui. Nous continuerons après le souper. Kostia, laisse tes manuscrits et viens manger.
Non, merci, je n'ai pas faim, je vais rester ici.
Comme tu voudras. Petrucha, souper. Je vais vous raconter comment on m'a reçu à Kharkov. C'était extraordinaire.
J'ai tant parlé des formes nouvelles, et maintenant je sens que moi-même, petit à petit, je glisse vers la routine. L'affiche collée au mur annonçait le pâle visage encadré de cheveux sombres, annoncé encadré si ridicule. Je commencerai par le moment où le héros est réveillé par le bruit de la pluie, le reste supprimé. La description du clair de lune est longue et trop recherchée. Grégorine, à force de travail, a fini par trouver un procédé. Tout lui est facile maintenant. Chez lui, le goulot d'une bouteille cassée qui brille sur la digue, la roue du moulin qui étend son ombre noire,
Et c'est la nuit, c'est le clair de lune. Et chez moi, la lumière qui tremble et les étoiles qui vacillent doucement et le son lointain du piano qui meurt dans l'air silencieux et parfumé, c'est affreux. Oui, je crois de plus en plus que la question n'est pas dans les formes nouvelles ou anciennes, mais dans ce que l'homme écrit sans penser à toutes ses formes. Il écrit parce que cela lui vient librement de son âme. Qu'est-ce que c'est ? Je ne vois rien. Quelqu'un a descendu les marches en courant.
Qui est là ?
Nina !
Vous ! Vous ! Vous !
J'avais l'âme angoissée, j'avais comme un pressentiment toute la journée. Ma bonne, ma bien-aimée, elle est venue.
Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas.
Il y a quelqu'un ici ?
Personne.
Fermez la porte pour qu'on n'entre pas.
Mais personne n'entrera.
Notre mère est là, je le sais.
Il n'y a pas de serrure ici. Je vais mettre une chaise devant la porte. N'ayez pas peur. Personne n'entrera.
Laissez-moi vous regarder. Il fait chaud. Il fait bon. Autrefois, c'était un salon, n'est-ce pas ? Ai-je beaucoup changé ?
Oui. Vous avez maigri et vos yeux sont devenus plus grands. Cela me paraît tellement étrange de vous voir. Pourquoi ne m'avez-vous jamais laissé venir jusqu'à vous ? Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ? Je sais que vous êtes là depuis presque une semaine. Je suis allé chez vous tous les jours. Plusieurs fois par jour. Je restais sous votre fenêtre comme un mendiant.
J'avais peur que vous me haïssiez. Toutes les nuits, je rêve que vous me regardez et ne me reconnaissez pas. Si vous saviez. Depuis mon arrivée ici, je ne fais que rôder autour du lac. J'ai été plusieurs fois près de votre maison, mais je n'ai pas osé entrer. Asseyons-nous. Asseyons-nous et parlons. Parlons. Il fait bon ici, il fait chaud. On est à l'abri. Entendez-vous le vent ? Tourguenieff dit quelque part : heureux celui qui par de telles nuits reste sous un toit familial. Heureux celui qui a son coin chaud. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Tourguenieff. Et que le Seigneur Dieu secourt les malheureux sans avis.
Nina, Nina.
Je n'ai rien. Cela me soulage. Il y a 2 ans que je n'ai pas pleuré. Hier, tard dans la soirée, je suis allée au jardin pour voir si notre théâtre existe encore. Il est toujours là. Et j'ai pleuré pour la première fois depuis 2 ans. Cela m'a soulagée, mon âme s'est éclairée. Vous voyez, je ne pleure plus. Alors, vous êtes devenu un écrivain. Vous êtes un écrivain et je suis une actrice. Nous voilà, nous aussi, pris dans le tourbillon. Autrefois, je vivais joyeuse comme une enfant. Le matin, je me réveillais et je chantais. J'aimais. Je vous aimais. Je rêvais à la gloire et maintenant... Demain matin, il faut partir pour une petite ville, en troisième classe, avec des paysans. Et là, les boutiquiers vont me poursuivre de leurs amabilités. Ma vie est grossière.
Pourquoi partir ?
J'ai signé un engagement pour tout l'hiver, il faut que je parte.
Ina, je vous ai maudite. Je vous ai haï. Je déchirais vos portraits et vos lettres. Mais je comprenais à chaque instant que mon âme est liée à la vôtre pour toute ma vie. Ne pas vous aimer, vous oublier. Non, je ne peux pas. Ina, depuis que je vous ai perdu, depuis que j'ai commencé à publier, ma vie est insupportable. Je souffre. Ma jeunesse, j'ai senti qu'elle m'a été arrachée d'un coup et il me semble que j'ai déjà vécu un siècle en ce monde. Je vous appelle. Je baise la terre sur laquelle vous avez marché. Partout je regarde, je vois votre visage et ce bon sourire qui brillait pour moi dans les meilleures années de ma vie.
Pourquoi parle-t-il ainsi?
Je suis si seul. Je ne suis réchauffé par aucune amitié. J'ai froid comme dans un souterrain et tout ce que j'écris est sec, sombre, morne. Nina, je vous en supplie. Restez ici. Permettez-moi de partir avec vous. Nina, où allez-vous? Je vous en supplie.
Ne me raccompagnez pas. Ma voiture est ménagère toute seule. Donnez-moi un peu d'eau.
Où allez-vous maintenant?
En ville. Votre mère est là?
Oui. Mon oncle s'est senti mal jeudi. Nous avons télégraphié à ma mère de venir.
Pourquoi dites-vous que vous avez baisé la terre sur laquelle j'ai marché? Il faut me tuer. Je suis tellement lasse. Si je pouvais me reposer, je suis une mouette. Non. Ce n'est pas ça. Je suis une actrice. Mais oui. Il est là, lui aussi. Mais oui, ça ne fait rien. Oui. Vous ne croyez pas au théâtre. Il y a de mes rêves. Alors moi aussi, j'ai perdu la foi, l'espoir. Et avec cela, les tourments de l'amour, la jalousie, la peur continuelle pour mon petit. J'étais devenue mesquine, nulle. Je jouais bêtement, je ne savais que faire de mes mains. Je ne savais pas me tenir en scène. Je ne possédais pas ma voix. Vous ne pouvez pas comprendre cet état quand on sent qu'on joue affreusement mal. Je suis une mouette. Non. Ce n'est pas ça. vous rappelez, vous avez tué une mouette. Mais voilà qu'arrive un homme, la voix, et par désœuvrement la paix. Un sujet pour un petit conte. Ce n'est pas ça. Oh, qu'est-ce que je dis? Je parlais du théâtre. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Je suis maintenant une véritable actrice. Je joue avec joie, avec extase. Je me sens enivrée en scène et je me sens belle. Depuis que je suis ici, je marche. Je marche et je pense. Je pense et je sens chaque jour croître les forces de mon âme. Maintenant, je sais, je comprends, Kostia, que pour nous, que nous écrivions, que nous jouions au théâtre, ce qui importe, ce n'est pas la gloire, ni l'éclat, ni tout ce dont j'ai rêvé jadis. Ce qui importe, c'est de savoir supporter, savoir porter sa croix et croire. Je crois, et j'ai moins mal. Et quand je pense à ma vocation, je ne crains pas la vie.
Vous avez trouvé votre chemin. Vous savez où vous allez. Moi, je me débats toujours dans le chaos des rêves et des images. Pour qui, pourquoi, tout ça, je ne sais rien. Je ne crois en rien, je ne sais pas quelle est ma vocation.
Chut. Je m'en vais. Adieu. Quand je serai une grande actrice, venez me voir jouer, promettez-le-moi. Maintenant, il est tard. Je suis exténuée, je tiens à peine debout, j'ai faim.
Mais restez, je vous donnerai à manger.
Non, ne me reconduisez pas, j'irai toute seule. Ma voiture est là. Alors elle l'a emmenée avec elle. Ça ne fait rien. Quand vous verrez Trigorine, ne lui dites rien. Je l'aime. Je l'aime encore plus qu'avant. Un sujet pour un petit conte. Je l'aime. Je l'aime avec toute ma passion. Je l'aime jusqu'au désespoir. Comme c'était bon autrefois, Kostia, vous en souvenez-vous? Une vie douce, claire, joyeuse, pure. Et des sentiments comme des fleurs, tendres, délicates. Vous vous rappelez? Homme, lion, aigles éperdris, cerf aux grandes cornes, oie, araignée, poisson silencieux qui vivait dans les eaux, étoile de mer, et ce que l'œil ne pouvait voir. En un mot, toutes les vies, après avoir parcouru leur triste cycle, se sont éteintes. Voilà des milliers de siècles que la Terre ne porte plus un seul être vivant. Et cette pauvre lune allume en vain sa lanterne. Dans les prés, les hérons ne s'éveillent plus avec leurs cris. On n'entend plus les hannetons dans les bois de filets.
Il ne faudrait pas qu'on la voie dans le jardin. Quelqu'un pourrait le dire à maman. Cela ferait de la peine à maman.
Kostia a déchiré ses manuscrits. Il sort.
dirait que la porte est fermée de l'intérieur.
C'est une véritable course d'obstacles, ma parole.
Le vin et la bière pour Boris Alexeïtch. Posez-le sur la table. Nous allons jouer et boire. Installons-nous.
Tu serviras le thé après.
Tenez, voilà la chose dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas.
Oh, qu'est-ce que c'est?
C'est rien. C'est probablement quelque chose qui a sauté dans ma trousse. Oui, c'est bien ça. Le flacon d'éther qui a sauté.
Oh, j'ai eu peur. Ça m'a rappelé. Je n'y voyais plus clair.
Je close auprès d'elle. Il y a deux mois, un article dans une lettre d'Amérique. Et justement, je vous demandais s'il m'intéresse particulièrement. Je dois éloigner Irina Nikolaïevna. Kostya vient de se tuer.
Veuillez écouter maintenant le débat de la Tribune libre de théâtre et université qui réunit autour de Philippe de Chartres, Sacha Pitoëf, Georges Lherminier, critique dramatique, Marcel Giraudet, Jean Laigle, professeur de lettres au lycée Carnot, Yves Bodelot et Guy Rossilandi, élèves de philosophie au lycée Carnot.
Eh bien, à propos de la mouette que nous venons de voir jouer, un certain nombre de questions se posent. Comment se fait-il en effet que Tchekhov plaise à ce point aujourd'hui au public français, à un public qui pourtant semble très éloigné du genre de Tchekhov? Comment se fait-il que Tchekhov ait été à ce point adopté? Yves Baudelot.
Bien, je crois que si Tchekhov plaît tellement actuellement, c'est parce que d'abord il nous étonne. Il rompt complètement avec la forme classique du théâtre et il nous demande un effort de réflexion pour comprendre son théâtre. Alors que dans le théâtre classique, on a moins besoin de réfléchir.
On subit une certaine habitude.
C'est ça.
Guy Rossilandi.
Oui, il y a certainement une part de surprise du spectateur français qui n'a jamais vu un théâtre semblable. Mais je me demande s'il comprend justement ce théâtre, si ce théâtre n'est pas très diversement compris. Et peut-être que chacun d'entre nous voit Tchekhov d'une certaine façon. Et c'est pour ça que ça plaît à tout le monde. Tout le monde y voit ce qu'il veut y voir.
Marcel Giraudet.
Il y a, puisque nous sommes sur ce sujet, trois auteurs que le théâtre des acteurs modernes de profession a découvert et que les spectateurs ont suivi maintenant. C'est Marivaux, Pirandello et Tchekhov. Pour des raisons diverses, mais qui me semblent quand même correspondre à un grand trouble du spectateur, français en particulier, non pas simplement un dégoût ou un mépris du théâtre classique que l'on continue à chérir en France, mais parce que peut-être le théâtre classique et le théâtre des siècles passés ne correspondent pas vraiment aux préoccupations actuelles, et parce que, en particulier pour Tchekhov, on découvre peut-être un monde qui est beaucoup plus près de nous que l'on croit.
Jean Laigle.
Il est évident que les personnages de Tchekhov sont très proches de nous, que les problèmes qu'ils se posent sont des problèmes de la vie quotidienne, très émouvants, traités d'une façon très émouvante. Ce problème de l'échec qui est continuellement traité par Tchekhov nous intéresse, chacun de nous en particulier. Et puis aussi, je crois qu'au point de vue de la forme de ce théâtre, ce que le public d'aujourd'hui aime beaucoup, c'est cette absence de déclamation, cette absence de cabotinage. dont il a été fatigué par le théâtre du boulevard, cette simplicité qu'on ne retrouve vraiment dans aucun autre auteur français actuellement.
Georges Lérémigné.
Je crois en effet, comme vous, que nous nous sommes rapprochés de Tchekhov. Nous nous sommes rapprochés de Tchekhov peut-être parce que la situation du spectateur français d'aujourd'hui se rapproche de la situation de ces héros de Tchekhov à la fin du XIXe siècle. Il y a entre la situation de la société russe en 1900 et la situation de la société française en 1900, je pense, peu de rapports, alors que notre société de 1960 est peut-être plus proche dans ses inquiétudes, dans ses angoisses du lendemain, dans le fait qu'elle se sent se défaire progressivement, une insécurité qu'elle ne connaissait pas il y a 60 ans. Il y a là un élément qui la rapproche précisément de cette société de Tchekhov. Et par conséquent, le spectateur d'aujourd'hui est de plein pied, je pense, avec Tchekhov, qui au lieu de lui raconter de la psychologie, comme le théâtre français a continué à le faire jusqu'à nos jours, vit la psychologie sous ses yeux. Stanislavski qui disait « on ne représente pas Tchekhov, on ne peut que le vivre », eh bien aujourd'hui, le spectateur français vit de plein pied, je pense, avec les héros de Tchekhov, parce que il s'est rapproché de ses personnages. Tous ces personnages qui attendent Godot, si vous voulez, dans Tchekhov, eh bien, il s'y reconnaît aujourd'hui.
Sacha Bitoeff.
Je préciserai en disant que les héros de Tchekhov ne sont pas des héros, en ce sens que ce sont des êtres simples, ils habitent généralement la province, ou s'ils ne l'habitent pas, c'est là qu'on les voit se réfugier pendant les vacances, qu'ils parlent un langage quotidien, que leurs sentiments ont la durée qu'ils ont, on pourrait dire, dans la vie, et que, d'autre part, l'amour de la vie, l'amour de Tchekhov pour les êtres humains, et sa position objective et humoristique à leur sujet sont très attachants, de manière générale.
Oui, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'un peu plus profond dans ce rapport qu'il y a entre les personnages de Tchekhov et nous-mêmes ? N'est-ce pas ? Les personnages de Tchekhov donnent l'impression de vivre en eux-mêmes sans jamais rencontrer l'autre, n'est-ce pas ? Ils ont une façon obsédés de suivre leur vie et leurs pensées. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'homme moderne n'est pas enfermé dans sa propre obsession ? Est-ce qu'il n'y a pas là un rapport secret, si vous voulez, entre notre façon d'être et de penser aujourd'hui et la façon d'être et de penser des personnages de Tchekhov ? Georges Lherminier.
Il faudrait peut-être dire plutôt que les personnages de Tchekhov se mentent à eux-mêmes dans une certaine mesure. Ils vivent devant nous leurs échecs, mais ils ne semblent pas toujours vouloir s'avouer leur échec. Et c'est d'ailleurs ce qui est douloureux, c'est d'ailleurs ce qui est comique aussi, dans une certaine mesure, car cet aveuglement à l'égard d'eux-mêmes est une source à la fois de comique et de pitié. Je crois que Tchekhov éprouve tour à tour et même parfois simultanément les deux, et que c'est ce comique de la velléité, de l'aveuglement, qui finalement fait de ces personnages de Tchekhov des êtres tout proches de nous, très, très simples et très humains.
Marcel Giraudet.
Oui, mais nous avons l'habitude, nous autres, si je puis dire, occidentaux de civilisation méditerranéenne au moins, de préciser nos dualités. Et depuis le romantisme en particulier, chaque être ou chaque personnage, chaque homme, se sait double ou capable d'être double, se l'avoue, ne s'en vante pas, mais c'est l'essentiel de son drame intérieur. Que ça soit le théâtre romantique, et même on peut le rapprocher même du théâtre racinien. Ah, c'est peut-être d'ailleurs une partie de la construction de Tchekhov, c'est peut-être une partie de son système tchekhovien, n'est-ce pas ? C'est qu'il n'est pas tourné, c'est sur le plateau, ses acteurs, ses personnages ne font pas appel au spectateur. Tandis que dans le théâtre français, dans le théâtre allemand, dans le théâtre de Shakespeare même, la plupart des acteurs, la plupart des personnages tendent la main, regardent le spectateur, cherchent de rentrer en communication et de communier vraiment, au moins par l'extérieur, avec le spectateur.
Oui, je crois que c'est Charles Dubos qui parlait des grandes profondeurs. J'ai toujours un peu l'impression, quand je vois une pièce de Tchekhov, de regarder une sorte d'aquarium ou de faire de la chasse sous-marine. On voit des êtres
qui parlent sans doute, mais on n'entre pas toujours dans leur discours. C'est une façon pour eux de se manifester. On voit une espèce de ballet d'actes, de sentiments, de paroles, un peu mystérieux, comme le sont les évolutions des poissons dans les aquariums ou dans les grands fonds.
Yves Baudelot.
Et moi, je crois qu'ils ne sont pas tellement loin de nous, parce que nous, nous voulons vivre, et eux aussi veulent vivre. Bien sûr, ils sont doubles ou triples ou même plus, mais nous aussi. Et souvent, nous nous laverons de poids. Qui peut dire qu'ils se connaissent vraiment? Ces êtres ne se connaissent pas vraiment, donc ils ne peuvent pas s'avouer leur côté double ou triple. Et pourtant, ils veulent vivre tout comme nous.
Je ne suis pas tellement sûr que les personnages de Tchekhov agissent ou pensent en aveugle. Prenons le cas de Trigorine dans La Mouette. Il est au contraire extrêmement lucide, n'est-ce pas ? Il est très sûr de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas.
Mais Trigorine est le personnage le plus lucide de La Mouette, parce que les autres, Trépleff, Nina ou même l'actrice, ne savent pas ce qu'ils sont et ne savent pas ce qu'ils veulent.
Il y a aussi dans La Mouette un personnage qui est un personnage constant chez Tchekhov, c'est Dorn, le médecin, dans lequel on peut voir, comme d'habitude, sans doute, la présence de l'auteur lui-même. Et il y a, si vous voulez, une lucidité de ce Dorn, de ce médecin, une lucidité pour les autres. Dorn est un peu le miroir à travers lequel, finalement, nous pouvons voir, comprendre et juger ces personnages. Je me demande s'il n'y a pas même là une forme de construction dramatique extrêmement originale, car cette espèce de distance que ce personnage met entre lui et les autres donne justement à la pièce son relief.
Guy Rossilandi.
Dans Oncle Vania, justement, Oncle Vania aussi serait lucide pour les autres et non pas pour lui. Il se rend compte que les autres ratent leur vie avant de s'apercevoir que lui-même se trompe.
Si on veut absolument tirer une conclusion, on en arrive à une assez facilement. Il y a d'un côté le jeune homme, le jeune poète qui se suicide, et de l'autre, la jeune actrice qui deviendra, je n'en doute pas, une grande artiste. Elle dit elle-même qu'elle a trouvé dans son art le moyen de dépasser, d'oublier la condition humaine, de ne plus souffrir. Il faut porter sa croix et croire, dit-elle. Et elle a découvert sa croix, elle la porte et elle peut vivre. Son art lui permet de dépasser sa condition misérable. Alors que Kostia, lui, n'a pas trouvé cela. Et il ne peut que mourir. On peut l'analyser sur les plans de la réalité, de la psychologie, et même de la psychologie des profondeurs, sur le plan du symbolisme, et on arrive toujours à la même conclusion. N'est-ce pas? Je crois qu'il y a un thème dans La Mouette, très important, et assez étonnant de constater que Tchekhov l'ait traité combien de décades avant Freud. Il y a un cas typique de complexe oedipien chez Trépleff, n'est-ce pas? L'attachement à sa mère, on fait allusion assez souvent à Hamlet, l'attachement à sa mère, le besoin d'affection, d'amour qu'il n'a pas, et l'échec presque voulu d'ailleurs du jeune poète qui ne peut vivre que s'il se sent aimé. Dès lors que Nina lui dit en sa présence « J'aime Trigorine et je l'aimerai toute ma vie », Trépleff ne le supporte pas et se suicide, c'est-à-dire tourne contre lui-même les armes qu'il n'ose pas tourner contre les autres.
Jean Laigle.
Oui, ce qui me paraît très étonnant dans Tchekhov, c'est que tous ces problèmes auxquels vous venez de faire allusion, problèmes de philosophie profonde d'ailleurs, sans en avoir l'air, en apparence très simple, très bénin, tous ces problèmes-là ne sont pas traités d'une façon abstraite, idéologique, déclamatoire, comme on le trouve très souvent chez Ibsen, par exemple. Ce sont des problèmes qui sont profondément vécus par chacun des personnages. On les sent engagés dans chacun de leurs problèmes. Et je crois que c'est précisément ce qui prend le public. Et ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que j'ai l'impression que Tchekhov ne juge pas ses personnages. Et c'est peut-être l'aspect le plus émouvant de l'art de Tchekhov.
Georges Lherminier.
Je crois que la grande révolution de Tchekhov, ce qu'il apporte aujourd'hui encore, pour nous, spectateurs français en particulier, c'est le passage d'une conception d'un théâtre de caractère, qui est le théâtre traditionnel français, à un théâtre, disons, de l'existence. Je veux dire que ces personnages se situent les uns par rapport aux autres et par rapport à nous, beaucoup moins comme des caractères, des types ou des emplois déterminés, que comme des êtres qui, dirais-je, s'inscrivent à des niveaux différents d'existence. Dans La Mouette, c'est évidemment assez sensible. On va, par exemple, du vieux Sorine, qui est tout proche de la mort, pour qui la mort sera évidemment une sorte d'accomplissement, mais aussi la consécration de son inutilité et de son néant. C'est le premier degré de l'existence ou de l'inexistence, si vous voulez. Et puis, à l'autre pôle, nous avons la mouette qui brûle littéralement de vie et de besoin d'exister. C'est plutôt dans ces différents niveaux, dans ces chutes, si vous voulez, entre ces niveaux d'existence, que réside justement la dramaturgie de Tchekhov. Oui.
Et ce qui ajoute à l'incommunicabilité des êtres.
Alors, tout dépend du niveau auquel chaque spectateur se place lui-même.
Yves Baudelot.
Et ne croyez-vous pas que le suicide de Treplev soit là pour marquer justement qu'il n'y a pas de fin possible? On est dans un cercle vicieux et on ne peut pas en sortir. Et on ne peut se réaliser que dans la mort, et se réaliser dans la mort, ce n'est pas se réaliser.
Je crois que ce que vous dites, Yves Baudelot, n'est pas tout à fait exact, parce que avant de mourir, avant de se suicider, Treplev a pris conscience des raisons de son échec. Et on a l'impression que s'il avait à recommencer, peut-être qu'il s'y prendrait autrement. Par exemple, il dit « J'ai poursuivi pendant très longtemps la recherche des formes nouvelles. Mais je m'aperçois maintenant que ce ne sont pas les formes qui importent, c'est la substance qu'on met dans ces formes. » Et il y a une phrase qui est absolument admirable et qui, je crois, est la clé de toute la pièce. Il dit « Il suffit simplement d'exprimer ce qui découle de son propre cœur, sans penser à une forme ou à une autre. » Ça, c'est tout de même une solution positive que nous donne Tchekhov, là. Il nous présente deux ratés de la littérature, mais qui sont peut-être même deux aspects de lui-même. Mais tout de même, il en dégage une leçon.
Oui, parce que peut-être tous ces personnages sont des velléitaires et qu'ils ne sont pas en mesure d'assumer leur propre personnage.
Peut-être. C'est ça, c'est une leçon extrêmement pessimiste, plus exactement. Parce que, oui, voilà ce qu'il faut faire, mais je ne peux pas, donc je meurs.
Y a-t-il une morale, quand même, qui se dégage de cet univers ?
Je crois que nous sommes habitués, depuis des générations, à nous intéresser à un théâtre qui tourne toujours autour du problème du bonheur. Et le théâtre du boulevard, lui, tourne autour d'un aspect secondaire, c'est le théâtre du plaisir, n'est-ce pas ? Or, nous, le théâtre sérieux, le théâtre psychologique, comme vous dites, est toujours préoccupé, sinon de la condition humaine, au moins du bonheur d'un individu ou d'un groupe d'individus. Et Brecht ne va pas plus loin, quelquefois, n'est-ce pas ? Tandis que là, nous avons un théâtre du désenchantement. C'est pas un théâtre du ratage de la vie, parce que ça va beaucoup plus loin, ça serait trop simple, le théâtre du ratage de la vie. Ces gens-là sont des désenchantés. Et que la solution trouvée par Treplev ou la solution trouvée par Nina ne nous satisfasse ou ne nous satisfasse pas sur le plan philosophique, ce qui reste, c'est quand même une société de gens qui vont boire, qui vont jouer, qui vont tricher, parce que Trigorine triche, l'actrice triche, le médecin triche, ils trichent tous avec eux-mêmes, avec tout le monde. Ils s'intègrent dans un système qui n'est pas une recherche du bonheur, ils vivent dans leur désenchantement, ils bouillonnent, ils croupissent dans leur désenchantement.
Mais peut-être parce que la société du temps de Tchekhov ne donnait plus le bonheur comme possible, Guy Rossilandi.
Oui, c'est exactement ça, et c'est là où on pourrait trouver tout de même une morale optimiste de Tchekhov, c'est que ils ont fait cela, ils ont eu tort, ils sont désenchantés, mais il y avait autre chose à faire. Et justement, il faut savoir ce qu'il y avait d'autre à faire, et ça, Tchekhov ne le dit pas.
Si, il le dit.
Yves Baudelot.
Il le dit pas dans son théâtre, mais il le dit dans une de ses nouvelles, Groseille à Macro. Il n'y a pas de bonheur, et il ne doit pas y en avoir. Mais si la vie a un sens et un but, ce sens et ce but ne sont pas du tout dans notre bonheur personnel, mais dans quelque chose de plus sage et de plus grand, faites le bien. Donc, il ne veut absolument pas d'un bonheur égoïste, mais d'un bonheur universel, enfin. Aimez-vous, faites le bien.
Oui, bien sûr. C'est pour cela que Astrov, dans Oncle Vania,
est malheureux parce que même s'il fait le bien, même s'il fait bien son travail de médecin, même s'il fait bien son travail d'agriculteur, même s'il voit l'herbe pousser et les arbres soignés, ça n'est pas suffisant car l'œuvre d'Astrov est trop limitée dans l'espace. Il faudrait que ce soit la Russie toute entière qui aille bien. C'est ça, au fond, qui se dégage de la philosophie des différents personnages lucides de Tchekhov.
Jean Laigle.
Je pense qu'il ne faut pas tout de même attacher trop d'importance aux idées qui sont débattues dans cette pièce. Et je voudrais bien que nous essayions de voir maintenant quel est le secret de cette dramaturgie, quelle est la technique dramatique de cet art. Parce que ce qui prend le spectateur, c'est surtout la densité tragique. Beaucoup plus que les réflexions philosophiques qui peuvent se poser sur la pièce.
Je vais quand même vous contredire. Je trouve que les idées sont très importantes. Mais Tchekhov ne s'exprime jamais par affirmation. Il laisse les affirmations se glisser petit à petit en nous-mêmes, êtres humains. Ce que vous avez dit est très juste, en effet. Il ne s'agit pas du bonheur individuel, il s'agit du bonheur ou de l'artiste, ou du travailleur, ou du médecin, plus peut-être de l'humanité en général que de classe même. Je crois que Tchekhov a une position en fait d'humoriste très élevée, au même titre que Bernard Shaw. Je crois donc qu'il ne faut pas dire, on ne peut pas dire les idées de Tchekhov sont importantes ou pas importantes. Il y a des idées, il y a des thèmes. Maintenant, la manière dont ces pièces sont construites est, je crois, est très mystérieuse et en même temps très simple, puisque c'est comme dans la vie. On peut parler, si l'on veut, de tranches de vie, bien que je n'aime pas ce terme-là. Je ne crois pas que ce soit des tranches de vie. Mais c'est comme dans la vie, les personnages. Et Tchekhov leur a donné une telle vérité qu'on finit par parler d'eux comme si c'était des êtres humains, mais en fait, ce sont quand même des personnages. Des personnages, comme nous, disent ce qu'ils ont à dire, tout en continuant leur propre pensée, leur propre petit destin, ou destin important. Comment les pièces sont construites ?
Vous ne pensez pas qu'il s'agisse d'un art impressionniste, par certains procédés ?
Si. Je crois en tout cas qu'on peut parler d'impressionnisme, mais pas à propos de la mouette, à propos des trois sœurs, à propos de la cerisée. À propos de la mouette, non, je crois que la pièce est construite beaucoup plus sur des schémas assez, en définitive, assez classiques d'un théâtre, on va dire, d'une forme de théâtre bourgeois de la fin du 19e siècle.
Georges Derminier.
La pièce que Tchekhov fait écrire à Kostia, ne croyez-vous pas qu'elle soit elle-même déjà un élément satirique? Est-ce que vis-à-vis de Kostia comme vis-à-vis de Trigorine, Tchekhov n'a pas une position d'humoriste? De même qu'il se moque de Trigorine, de sa manie des fiches, enfin de la technique naturaliste, le petit carnet de Zola, etc. De même, ne se moque-t-il pas aussi un peu des excès de Kostia qui fait du symbolisme, disons?
Je ne crois pas. Vous savez que la dernière pièce que Tchekhov voulait écrire, qui n'a pas eu le temps de traiter, était précisément une pièce très symbolique où deux hommes se retrouvaient au Groenland, parmi les glaciers, avec une femme. C'est une pièce très très symbolique. Peut-être qu'il aurait écrit un théâtre s'il ne s'était senti obligé d'exercer sa profession de médecin des âmes, comme d'ailleurs il a été médecin des corps. Peut-être qu'il a écrit, il aurait écrit un théâtre très différent, peut-être symbolique, uniquement poétique. Je ne crois pas que Tchekhov ait voulu ridiculiser. Au contraire, c'est un élan du cœur qui a poussé Kostia à écrire cette pièce. Et si on s'en moque, c'est Akadina, sa mère, qui est l'actrice consacrée, qui le fait, c'est-à-dire... La position de Tchekhov est quand même très nette. Peut-être qu'il sourit un petit peu en faisant écrire cette pièce à Kostia. Il sourit davantage lorsque il nous montre Arkadina dans sa grande scène au troisième acte, utilisant tous les moyens connus aux femmes. Elle fait jouer la scène du 3 pour garder son amant.
Jean Laigle.
J'ai un grand souvenir. J'ai le souvenir de votre père interprétant La Mouette en 1922 à la Comédie des Champs-Élysées. Ça nous a absolument éblouis. Nous en avons gardé un souvenir impérissable. Et le plus bel éloge qu'on puisse faire de votre mise en scène, c'est qu'à chaque instant, nous y voyons le reflet fidèle de celle de Georges et de Ludmilla. Mais tout de même, j'ai trouvé quelques petites différences. Autant que mes souvenirs sont précis, parce qu'il y a tout de même de cela 40 ans, j'ai l'impression que Georges donnait au personnage Trigorine peut-être un peu moins de désespérance, un peu moins de mélancolie. Que, par exemple, il avait des mouvements spontanés, des élans qui le portaient, par exemple, vers Nina, quand il réclamait sa liberté à l'actrice. J'ai l'impression qu'il était peut-être moins blasé que vous ne le faites paraître. On a l'impression, et votre interprétation est tout à fait défendable, elle coïncide tout à fait avec le texte, mais on a l'impression que cet amour pour Nina n'est pour lui qu'un prétexte à la littérature. Il en tirera encore un sujet de nouvelle. Est-ce que vous avez assisté aux représentations de Georges Pitoëff?
Oui, j'ai... en 1939, oui. Oui, c'est en 1939. Je ne peux pas vous dire précisément à tel moment ou dans telle scène j'ai éprouvé ceci ou cela. Le souvenir qui m'est, l'impression qui m'est restée de l'interprétation de mon père de Trigorine, c'est qu'il est surtout, c'était un homme happé par son travail. On pourrait dire lunatique à sa manière, puisqu'il le dit d'ailleurs, j'ai ma lune. Et c'était un rêveur à sa façon, un homme qui a besoin constamment d'écrire et qui, lorsqu'il fait une tentative dans la vie avec Nina, échoue. En fait, c'est très cruel d'ailleurs.
Mais alors, comment se fait-il, n'est-ce pas, que Tchekhov pensait que ces pièces dont nous venons de parler, dont nous venons de dégager l'aura désenchantée ou tragique, comment pouvait-il penser que son théâtre s'apparentait à un théâtre comique? Un théâtre de comédie, disons, un théâtre parfois proche du vaudeville.
Il faut considérer les jugements de Tchekhov par rapport à l'interprétation qu'on donnait de ses pièces à l'époque. Or, je suppose que Stanislavski et ses interprètes vivaient les personnages, les conflits et les thèmes des pièces de Tchekhov avec une très grande conviction et trouvait dans l'imitation parfaite, dans la reproduction de la vie, un très grand plaisir. Il n'avait pas ce que nous avons depuis quelques années appelé la distanciation vis-à-vis des personnages de Tchekhov, que l'humour y était reconnu, mais qu'on avait besoin à l'époque de souffrir si les personnages souffraient. Le thème de la cerisette est un thème d'adieu, de nostalgie. Par conséquent, il fallait que ce soit triste. Si Tchekhov dit « j'ai écrit un vaudeville », encore faudrait-il s'entendre sur ce que Tchekhov appelle le vaudeville, mais enfin, disons, une comédie gay qui s'appelle « La cerisette », il avait un point de vue vraisemblablement de 25 ou 30 ans ou 40 ans en avant de son temps. Aujourd'hui, on peut représenter la cerisette telle qu'elle, je crois, et telle que Tchekhov voulait qu'elle soit représentée. À l'époque, il aurait été difficile de le faire.
Jean Lègle.
Tout de même, le comique suppose une attaque contre les personnages. Quelque chose d'acerbe, quelque chose de sarcastique. Tandis que je ne trouve pas ça chez Tchekhov. Je trouve toujours un amour pour tous les êtres, même dont ceux dont il se moque. Et c'est ce qui limite son comique, tout de même.
Moi, je crois que entre cette position, enfin cette notion de comique qu'on pourrait avoir et qu'on ne peut pas vraiment avoir vis-à-vis de Tchekhov, quelque chose me frappe, moi. C'est qu'il y a, dans l'interprétation que vous en donnez et dans l'interprétation des pièces de Tchekhov que j'ai vu jouer, ou par vous, ou par les Russes, ou par Barrault, ou par Marchat, il se dégage une espèce de poésie d'humour noir, une poésie de mépris. Contrairement à ce que vous dites, je crois que Tchekhov devait aimer comme matière à travail intellectuel ses personnages. Mais intimement, il devait les mépriser. Il ne pouvait pas. Il donnait peut-être pas ce mépris, l'allure ironique et violente du sarcasme ou du fabliau. Mais il ne pouvait pas aimer vraiment Trigorine. Il ne pouvait pas vraiment aimer ces gens qui passent leur vie à détruire leur vie elle-même. Quand je vais voir les pièces de Tchekhov, je ne comprends pas bien qu'il ait pu dire que ces pièces étaient comiques. Je ne comprends pas bien même des anecdotes qu'on raconte entre les dissentiments entre Stanislavski et lui. On les voit pas très très bien, c'est un monde très étranger ça. Mais je comprends fort bien qu'il n'ait pas fait de ces pièces des pièces dramatiques au sens où nous on l'entend dans notre théâtre. Dramatique étant exemplaire dans le théâtre occidental. Il y a quelque chose là, il y a un monde que l'on aborde qui est extrêmement intéressant, qui est passionnant, qui est trop émouvant. Peut-être, parce que nous voyons l'émotion de ces choses-là à notre manière, et je ne crois pas que Sacha Pitreff le voit de cette manière-là.
Les personnages de Tchekhov sont précisément des personnages ambigus. Il y a une psychologie, mais une psychologie de l'ambiguïté dans ces personnages. Ce qui fait qu'ils peuvent tour à tour, dans l'attitude que Tchekhov prend vis-à-vis d'eux, nous paraître ou ridicules ou tragiques, car ils sont les deux à la fois. Et cette ambiguïté profonde de la dramaturgie de Tchekhov, c'est peut-être ce qui a tenu éloigné d'elle, si longtemps, le spectateur français.
La radiodiffusion française vous a présenté, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission de Philippe de Chartres. C'était aujourd'hui, dans un découpage radiophonique, La Mouette, comédie de Tchekhov, texte français de Georges et Lyudmila Pitoeff, jouée au Théâtre moderne dans la distribution suivante. Arkadina, actrice, Arlette Méry. Constantine, son fils, communément appelé Kostia, Antoine Bourseiller. Piotr Nikolaïevitch Sorine, frère d'Arkadina, Arimax. Nina, fille d'un riche propriétaire foncier, Delphine Sérig. Chamraïev, lieutenant retraité, intendant chez Sorine, Pierre Leproux. Paulina, sa femme, Madeleine Chemina. Macha, leur fille, Luz Garciaville. Trigorine, écrivain, Sacha Pitoeff. Dorn, médecin, Yves Brinville. Medvedenko, instituteur, Paul Chevalier. Mise en scène de Sacha Pitoeff, d'après les notes de Georges Pitoeff. La Tribune Libre de Théâtre et Université réunissait autour de Philippe de Chartres, Sacha Pitoeff, Georges Lherminier, critique dramatique, Marcel Giraudet, Jean Laigle, professeur de lettres au lycée Carnot, Yves Baudelot et Guy Rossilandi, élèves de philosophie au lycée Carnot. Réalisation, Éléonore Kramer.
C'était une émission diffusée la première fois le 8 juin 1961.